Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se lève.
7h38, la chronique sportive avec Michel Villeneuve. Salut Michel.
Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à commencer tout de suite, là, comme les joueurs du Canadien hier?
Tu devrais attendre la fin du match, je pense.
Ouais, je devrais attendre peut-être la fin d'émission.
C'est ça.
Ah, c'est. Écoute, je suis un petit peu inquiet. Mais pourquoi je devrais être inquiet? C'est peut-être la vraie image du Canadien qu'on voit actuellement.
Mm-hmm.
La question qu'il faut se poser, le club que tout le monde aimait en début de saison, qui se défonçait, qui patinait, est-ce qu'on a joué au-dessus de sa tête?
J'ai l'impression qu'on s'est épuisé rapidement. Faut se poser la question
parce que ouais. Ouais, ben, c'était le danger c'est le danger que je décriais dès le début de l'année. Avec le genre d'équipe qu'ils avaient, on pouvait arriver rapidement au maximum, puis qu'on gaspillait beaucoup d'énergie, que le réservoir serait vide pas mal plus tôt qu'on pense. Et c'est peut-être ce qui nous frappe aujourd'hui en plein visage. Je te dirais que se faire battre hier à Saint-Louis par la pire équipe de la Ligue nationale à domicile, se faire battre par les Blues sont pas mal meilleurs, à mon avis, que leur fiche ne l'indique présentement.
Ouais, ça, c'est
une équipe
sûr.
Qui est supérieure à ça. Et hier, face à une équipe du Canadien qui n'était pas là, les Blues ont très bien paru, une équipe imposante physiquement, qui réussit à gagner toutes les batailles, que ce soit près du filet, le long des rampes, au centre de la patinoire, les Blues, réussissaient à avoir toujours le dessus sur les joueurs du Canadien. Et dans un match où c'est ton quatrième trio qui est le meilleur, et que Carl Eisner est ton meilleur défenseur, tu te dis, ça a pas bien été, le résultat doit être décevant, et c'est exactement ce qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est inacceptable, qu'on soit rendu un petit peu au bout du rouleau, là, la pause du match des étoiles arrive, on est peut-être fatigué, je conçois tout ça, c'est un troisième match en quatre soirs, le joueur des Blues de Saint-Louis était confronté exactement au même problème, toutes les équipes de la Ligue nationale ont des calendriers qui ressemblent à ça, mais que tu ne sois pas prêt à entamer la partie, que tu te fasses battre, c'est une affaire, mais que tu te fasses battre quand t'es pas là, c'est trop souvent ce qu'on a décrié chez le Canadien au cours des dernières années. Indifférence, manque de préparation. Puis le manque de préparation, là, je suis tanné qu'on fasse passer ça sur le dos des coachs aussi. Là.
Ben non,
le
c'est
joueur
ça.
A une responsabilité, c'est d'être prêt quand ça commence.
C'est des
une
professionnels.
Responsabilité exactement. Responsabilité personnelle de concentration et de préparation physique, de bien s'alimenter, de bien dormir, tout ça, et d'être prêt à disputer un match, c'est son travail. Et actuellement, c'est bien malheureux que le Canadien ait une fiche de 6 victoires, 4 défaites au cours des 10 derniers matchs. Ça tient pas debout. Ça tient pas debout parce que le Canadien n'a pas été bon.
Non.
Dans le match contre les Red Wings de Détroit avant hier, le Canadien n'a pas été bon.
Absolument.
Mais on a réussi à gagner devant une équipe qui était peut-être moins désespérée. Mais actuellement, c'est pas Jojo. Puis même si Claude Julien multiplie les changements de trio, les coachs ont beau faire tout ce qu'ils veulent, des grimaces derrière le banc, des longs meetings, tout ça. Actuellement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez le Canadien. Heureusement que la pause du match des étoiles s'en vient, on pourra peut-être recharger ses batteries. Mais le Canadien ne se comporte pas comme une équipe qui peut aspirer aux séries éliminatoires et qui mérite d'être dans les séries.
Pas de sentiment d'urgence, effectivement.
Exactement. Puis le sentiment d'urgence, là, moi, je trouve qu'on joue souvent là-dessus, là. Présente-toi donc. Fais ton travail. Essaie de donner le meilleur de toi-même. Donne tout ce que tu as donné, sa patinoire, jusqu'à la dernière minute. Puis après ça, t'as pas de regrets. Mais actuellement, les regrets, il y en a en Moses. J'espère qu'il y en a.
Ouais.
J'espère qu'il y en a des regrets.
Il y en a peut-être un qui regrette d'être
mais
à l'avant.
C'est une petite équipe qui nous a surpris en début de saison, par son acharnement, tout ça, mais ça demeure une petite équipe.
Oui, exactement. Bon. On en voit les tenants et aboutissants. Là, c'est ça, David Schlemko, plus ou moins heureux d'être à Laval?
Oui. Mais écoute, il dit, je m'en attendais pas. Pardon? Il dit, lorsqu'on m'a annoncé la nouvelle, j'ai été surpris. Aïe, aïe. Là, c'est peut-être un sentiment général chez les joueurs du Canadien qu'il traduit. Il est déconnecté de la réalité, le Motipet, le Schlemko, là. Ça fait 2 ans qu'il est ici, ça fait 2 ans qu'il est blessé. Puis lorsqu'il arrive sur la patinoire, honnêtement, là, il n'a pas l'air d'un joueur de calibre de la Ligue nationale. Et je sais pas quel est le dépisteur professionnel qui a incité Marc Bergevin à lui octroyer un contrat. Ben lui, là, ce dépisteur professionnel-là, devrait être... c'est pas le même qui a sûrement suggéré Paul Byron, mais c'est le même, il a réalisé un grand coup, un mauvais coup. Mais le gars qui a suggéré aux Canadiens d'embaucher David Slemko, alors que personne ne le connaissait à Montréal, au Québec, puis probablement dans le reste du Canada, il s'est royalement trompé. Je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Mais mon homme, si tu regardes les bandes vidéo des matchs que tu as disputés, tu jouais même pas comme un joueur de la Ligue américaine.
Ouais, il y a 2 passes en 18 matchs, je te dis, là.
Non, puis c'est pas le nombre de points qu'il y a au tableau. Ouais. C'est de la façon dont il se comportait sa patinoire. Mm-hmm. Écoute, c'était toujours tout croche. Il était toujours le ou l'un des deux pires défenseurs de l'équipe sur la patinoire soir après soir. Fait qu'écoute, là, ça aurait pu se passer beaucoup plus tôt. Et lorsqu'on avait cédé Carl Eisner au rang mineur, je me suis dit, ouais, pourquoi Eisner plutôt que Schlemko? Au moins, Eisner avait un passé qui nous permettait de croire qu'il pouvait se replacer un peu. Mm-hmm. Mais Schlemko, il y a rien dans sa carrière qui nous disait qu'il était capable de tenir le coup, puis encore moins de rétablir et de s'établir comme l'un des meilleurs joueurs de défense du Canadien. Il y a quelqu'un là qui a voulu nous faire avaler une couleur certain, là. En tout cas, j'espère qu'il va se rendre compte de ça. C'est un autre que l'on retrouve avec le Rocket de Laval qui ne développe pas beaucoup de jeunes joueurs.
Non.
On est rendu avec beaucoup de vétérans à Laval. Pauvre Joël Bouchard, il y a de l'ouvrage là. Il faut qu'il ramasse sa petite cuillère puis il replace pour qu'il puisse retourner à Montréal. Je comprends que c'est son travail, mais rappelons que l'équipe dans la Ligue américaine est une équipe de développement et pas une équipe. Ce n'est pas une maison de retraite non plus.
Exactement. Dis-moi, parle-moi donc des relations. Excuse-moi. Parle-moi des relations dans la Ligue nationale. C'est pas au beau fixe?
Ouais. Ben, écoute, je sais pas si tu as vu les images de l'engueulade entre Nathan MacKinnon et son coach Jared Bernard de l'Avalanche du Colorado.
Lui a dit de faire sa job.
Dans une défaite de 5-3 face aux Flames. Bon, il a dit de faire sa job. La dernière fois que j'ai vu une engueulade comme ça sur le banc, ça remonte à très loin, les gens s'en souviennent, puis c'était le contraire. C'était Pierre Pagé qui servait une savonnette à Matt Sundin en pleine série éliminatoire au Forum de Montréal.
Oui, je me rappelle
puis,
ça.
Ça a été la fin de Pagé, puis c'était la fin des Nordiques à ce moment-là, qui avait une équipe pour aller jusqu'au bout, mais ça avait complètement fait chavirer le navire. Et on n'a pas vu, parce que là, sur le banc des joueurs, il n'y a rien qui n'échappe aux caméras. Il y a toujours une caméra qui est fixée sur le banc. Dès qu'il y a un arrêt de jeu, il y a une caméra qui est là puis qui surveille le banc, puis le réalisateur n'a qu'à faire un clic des doigts puis on voit ce qui se passe sur le banc. Et là, je vais te dire une affaire, là. Je m'imagine une altercation comme celle-là entre Shea Weber et Claude Julien. Tabarouette, c'est la une, puis on en parle depuis une semaine.
Oh oui, ben oui.
C'est partout. À la radio, à la télévision, dans les journaux, on ne parle que de ça. J'ai pas vu beaucoup de réactions du côté de Denver parce qu'on a d'autres priorités actuellement que l'Avalanche du Colorado. Sauf que un directeur général, Joe Sakic, regarde ça, là. Il peut pas voir son joueur vedette s'engueuler avec son coach, puis un coach qui n'a pas une grande réputation, là. Jared Bednar,
ouais,
là,
c'est ça.
À part sa mère puis son père, il n'y a pas grand monde qui le connaît, puis il n'y a pas grand monde qui juge que c'est un grand coach de hockey. Sauf que là, tu te fais engueuler par ton joueur vedette sur le banc. Si j'étais à sa place, c'est sûr que je déposerais mes prochains chèques de paye à la banque sans les dépenser. Parce que ça veut dire que le congédiement s'en vient. Parce que tu pourras, si t'as à choisir entre Nathan MacKinnon et Jared Bednar, c'est assez simple, c'est MacKinnon qui va gagner la bataille.
Et ça va devenir compliqué.
Ils sont aussi bien de faire la paix rapidement.
Effectivement.
Puis, tu regardes ce qui se passe avec le beau Sergei Bobrovsky du côté de Columbus.
Oui.
Lui et Panarin se demandent s'ils vont demeurer avec l'équipe. Mais là, Bobrovsky est suspendu pour un match pour un incident qui est rattaché à son comportement.
Ouais, c'est pas clair.
Et on n'a pas voulu aller plus loin. On n'a pas voulu dévoiler le pourquoi. Pourquoi tu suspends le joueur pour une partie? Un de tes joueurs vedettes, parce que c'est un gagnant du trophée Vézina, là, c'est pas n'importe qui. Puis on le suspend, qu'est-ce qu'il a fait? Fait que tu sais, là, c'est pas au beau fixe. Nous autres, on a des beaux petits gars là, qui se piquent pour l'insuline ou qui vendent des McDonald's à la télévision, qui sont bien fins avec les hôpitaux pour enfants. T'sais, on a tous des buveux de lait, ils sont tous gentils. Mais ça gagne pas, ça. Puis je regarde de l'autre côté, il y a une coupe de bombes. Je dis pas que Brobovski, c'est un bombe. Mais tu te fais suspendre pour une conduite là, qui est répréhensible à l'égard de l'équipe. J'essaie de m'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une conduite qui est répréhensible à l'endroit de l'équipe. Ça veut-tu dire que t'as pas suivi, t'as manqué une séance vidéo, t'es arrivé en retard à un entraînement, t'as déblatéré contre le coach ou tes coéquipiers, que t'as brisé le couvre-feu? Il y en a des raisons. Qu'est-ce qui fait que tu es obligé de te passer de ton meilleur joueur pour un match? Je sais pas. Puis pendant ce temps-là, à Toronto, Mike Babcock, lui, est pas content de William Nylander. Mais je pense que John Tavares a bien résumé la situation. Écoute, il y a 3 mois de retard sur tout le monde. Même si tu es un jeune homme qui est en forme, tu ne te retrouves pas à la vitesse de la Ligue nationale après avoir manqué tout le camp d'entraînement puis les 3 premiers mois de la saison, là. Ça prend du temps que tu t'appelles William Nylander ou que tu t'appelles Sidney Crosby quand t'as pas joué pantoute, puis être en forme physiquement puis être en game shape pour un match de hockey, c'est une autre affaire. Mais le petit gars doit comprendre que c'est lui qui a voulu faire la grève, c'est lui qui voulait pas se présenter au camp d'entraînement et satisfait de son entente. Il y a un prix à payer pour ça et c'est lui qui doit répondre de ses décisions puis doit répondre maintenant de ses performances.
Il y a un mot sur Gary Bettman qui prépare, permets-moi l'expression, le setup à Seattle.
Écoute, il leur dit là, non seulement on est tellement content de vous voir aller, d'ailleurs il y a un Montréalais, Mitch Garber, qui est maintenant actionnaire de la nouvelle équipe de Seattle, tu te dis, ok, on leur dit, vous allez avoir le match des étoiles au cours des 7 prochaines années, vous allez avoir en plus, mes chers amis, le repêchage de la Ligue nationale qui va se passer chez vous, puis en prime, on va organiser un match en plein air. Il dit, il faut faire de quoi Seattle? Voyons donc, il arrive. Pourquoi toutes ces assurances-là? Un match en plein air, la plus grande organisation de toute l'histoire du hockey. Le Canadien de Montréal n'a pas disputé un match en plein air, alors que c'est l'équipe qui, après Edmonton, Winnipeg et Calgary, présente les meilleures conditions pour présenter une classique hivernale. Mais il n'y en a pas. On dit que le stade n'est pas assez grand, le stade Percival. Bon, je m'en sacre, là. Comment ça que la plus grande équipe de tous les temps, dans le berceau du hockey, où il y a de l'hiver, n'est pas capable de présenter un match à l'extérieur, alors qu'on garantit déjà à Seattle, dont l'équipe n'a même pas de nom, ni donné un seul coup de patin dans la Ligue nationale, elle est assurée qu'elle va en avoir une. Tout le monde en a.
Michel, merci. Puis normalement, bon Catherine week-end. Devrait être là lundi. Merci et bon week-end à toi.
Ah, le petit... J'espère qu'on va être en forme, notre petit bébé.
Salut, Michel.
On l'aime.
Bon week-end. Salut. Merci. 7h51.